à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, l'émission Mode d'emploi est animée par la Fondation Copernic, avec pour présenter l'émission Didier Gélot et Emmanuel Rengouat, c'est moi-même. On a aussi une petite pensée pour Mathieu Maury, qui n'est pas là, mais qui nous rejoindra à la prochaine émission. Et à la technique, nous avons Claude et Clémence, on les remercie. L'émission de ce soir est consacrée à la question de la santé et de la souffrance au travail et de la responsabilisation des entreprises. Pour nous en parler, deux invités, Louis-Marie Barnier et Annie Thébomoni. On retrouvera aussi en fin d'émission Sophie Bruno, qui nous parlera de son documentaire sur la question « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Je vous rappelle également que vous pouvez nous joindre au 01 40 05 06 10. C'est donc l'équipe de la Fondation Copernic qui réalise l'émission aujourd'hui. Mode d'emploi propose une nouvelle formule cette année. On aura le plaisir de revenir tous les derniers vendredis du mois pour vous présenter une émission sur des thématiques politiques et sociales. Alors le principe de l'émission, elle se fera en deux temps. Un premier temps plus long avec des invités et puis une discussion sur une thématique précise. Et puis un deuxième temps sur la même thématique avec un autre angle d'approche à partir de documentaires, de romans, de nouveaux supports, un petit peu d'autres angles d'approche sur ce sujet-là. Alors on remercie chaleureusement tous les collègues de Mode d'emploi qui nous ont proposé l'émission et qui nous ont largement coachés pour nos débuts radiophoniques. Donc soyez indulgents, merci. Et avant d'attaquer le sujet de ce soir et d'entrer dans la question et de vous présenter nos invités, quelques mots d'abord de la Fondation Copernic. Alors Didier Gélot, tu vas pouvoir nous présenter la Fondation ?
Eh bien effectivement, la Fondation, elle a maintenant quelques années, puisqu'elle a été créée en 98, hein, à l'initiative de chercheurs, de syndicalistes, d'associatifs. Et l'objectif est de contribuer sur le champ, des champs très très vastes, hein, qui vont de l'économie à la sociologie, sur des problématiques elles-mêmes très diverses. Eh bien, à montrer que d'autres politiques sont possibles que celles qui sont inspirées par le libéralisme aujourd'hui et hier, et que sur ces thèmes, eh bien, il y a des possibilités de trouver à la fois des argumentaires et également de faire des propositions. Alors tout ça donne lieu à des notes, hein, que on en parlera d'ailleurs tout à l'heure sur on vous indiquera le lieu et le site sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de ces notes, mais donc des notes qui sont particulièrement variées, qui vont à la fois comme aujourd'hui justement donc sur la thématique de la santé et de la souffrance au travail, mais qui peuvent être traitées aussi de l'homoparentalité par exemple, sujet évidemment tout à fait différent, de l'eau, des services publics, des politiques fiscales, bref. Copernic est connu en particulier par un travail qui a été réalisé en collaboration avec d'autres sur la campagne sur le TCE au moment de l'Europe, hein, où là-dessus, sur cette question, Copernic a beaucoup travaillé, a beaucoup œuvré à rassembler, puisque c'est ça son objectif, hein, essayer de rassembler l'ensemble des forces antilibérales qui pour permettre de proposer, de faire des propositions et des actions. Comme d'ailleurs la station, hein, la Copernic a la particularité justement de rassembler des forces politiques, des forces syndicales, associatives très diverses et des personnalités qui n'ont pas d'appartenance particulière mais qui ont toutes comme objet commun de travailler à œuvrer pour l'antilibéralisme. Voilà un petit peu le sens de la Fondation. Et donc aujourd'hui, on va traiter un thème, comme ça a été indiqué, autour de la question de la souffrance et au travail, avec toute la question des difficultés rencontrées par les salariés face à la libéralisation du marché du travail et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé.
Oui, alors on va commencer par présenter nos invités. Donc on est très content de les retrouver ce soir. On les remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc nous sommes avec Annie Thébomoni, qui est directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et qui est directrice de GISCOP 93. Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être vous pouvez tout de suite nous expliquer ce que c'est le GISCOP 93.
Alors le GISCOP 93, c'est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle. C'est une équipe de recherche qui a été constituée maintenant il y a une dizaine d'années pour, je dirais, pallier à une très grande difficulté de connaissance des expositions professionnelles aux cancérogènes, des patients atteints de cancer. Et en fait, la base de notre travail, c'est une enquête permanente dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans 3 hôpitaux, où avec quelques services volontaires, où les médecins ont accepté de travailler avec nous, avec les chercheurs, nous avons décidé de faire la reconstitution des parcours professionnels de... Ah là là.
On a un petit arrangement technique.
Juste un problème de technique. Donc cette enquête a pour objectif de reconstituer les parcours professionnels des patients atteints de cancer et d'identifier les expositions cancérogènes dans ces parcours. Et 10 ans après le début de l'enquête, on a plus de 1000 dossiers maintenant et on peut dire que 84% en moyenne de ces patients ont été lourdement exposés à des cancérogènes dans les secteurs du bâtiment, du travail des métaux, de l'entretien, de la maintenance, du nettoyage, dans des conditions qui sont toujours aussi mauvaises, je dirais. La moitié d'entre eux a moins de 60 ans et une partie d'entre eux était encore au travail dans des secteurs exposés quand ils sont tombés malades du cancer. Donc l'objectif de notre groupe, c'est de travailler sur ces expositions et de travailler aussi au suivi de la reconnaissance en maladie professionnelle, puisqu'ils ont des droits à la reconnaissance en maladie professionnelle quand ils ont été exposés au cancérogène.
On va revenir beaucoup sur cette problématique de la reconnaissance des maladies professionnelles, des accidents du travail. Ça sera un peu le cœur de notre sujet. Louis-Marie Barnier, tu peux nous dire un petit peu ce qui t'amène ici aujourd'hui ?
Donc moi, je suis syndicaliste, sociologue. Comme syndicaliste, j'ai été secrétaire de CHSCT, donc comité hygiène et sécurité, pendant un certain nombre d'années. Ce sont des comités qui regroupent dans les entreprises des syndicalistes qui s'occupent spécialement des questions de santé au travail, d'organisation du travail, et qui sont en quelque sorte les interlocuteurs de la direction, mais aussi les intermédiaires des salariés dans ces domaines-là. Et donc je me suis après engagé beaucoup plus dans la Fondation Copernic, mais je suis resté beaucoup aussi sur l'idée que finalement on avait un énorme problème social en France qui était la question de la santé au travail et qu'on avait beaucoup de mal à l'aborder, à l'appréhender et qu'on n'avait pas beaucoup en fait de moyens d'entrer dans cette question, à part la question du rapport de force direct dans les ateliers. Donc ça, on connaît, nous, en tant que syndicalistes. Mais par contre, la réflexion sur les outils qu'on peut avoir, on avait beaucoup plus de mal.
D'accord. Alors, on peut le dire tout de suite, vous avez aussi tous les deux publié en commun une note de la Fondation Copernic qui s'appelle « Travailles-tu en toute impunité ?» et qui a été publiée chez Sileps en 2009, il me semble. Alors, peut-être on peut commencer par...
Moi, je serais tenté de donner quelques chiffres qui expliquent déjà le pourquoi de cette note. Hein.
Voilà.
J'ai lu vos travaux et j'ai retenu des chiffres qui sont effectivement tout à fait impressionnants. Vous dites 14 000 maladies professionnelles en 1996. 53 000 en 2005. Bon, rien que ce chiffre déjà montre évidemment l'explosion des maladies professionnelles en France, multiplié par 5. Donc déjà premier chiffre qui, je crois, illustre bien le propos. Deuxième chiffre, 3 salariés meurent chaque jour au travail. Bon, on pourrait en citer, vous en citez de nombreux. On va pas aller trop loin là-dessus, mais ça montre bien effectivement l'acuité du problème et vraiment la difficulté, les difficultés que rencontrent les salariés aujourd'hui dans l'exécution de leur travail. Et parallèlement, vous dites que malheureusement, tout ça, à l'abord, est relativement occulté, c'est-à-dire que bon, c'est un sujet dont on ne parle que très peu, et qui, par ailleurs, lorsqu'on en parle, est souvent rendu difficile du point de vue des employeurs, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une vraie difficulté à faire reconnaître la situation auprès des employeurs et plus largement auprès des tribunaux qui sont amenés à juger ces questions. Je crois que c'est un petit peu ça finalement le fond de votre note. Alors peut-être pourrions-nous commencer à vous demander peut-être pourquoi Déjà, première question, pourquoi est-ce que ce phénomène, pourtant bien connu des spécialistes, Anita Bomoni travaille depuis de très nombreuses années sur ces questions, elle nous l'a dit tout à l'heure, peut-être pourquoi est-ce que ce phénomène est mal couvert déjà? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas?
Alors, je crois qu'il faut revenir à un petit point d'histoire. C'est le fait qu'en France, tout l'accent a été mis sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles avec la loi de 1898 sur les accidents du travail et celle de 1919 sur les maladies professionnelles. Et que disent cette loi? C'est on s'occupe d'indemniser les victimes, il y a un droit à l'indemnisation. Mais ce droit à l'indemnisation, c'est un peu comme l'assurance du dégât des eaux. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la cause. Et du coup, ça fait un siècle que lorsqu'il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle en France, on est beaucoup plus préoccupé de l'indemnisation que d'aller sur le versant qui, moi, me préoccupe parce que je suis chercheur en santé publique, qui est la question des causes et de la lutte contre les facteurs qui entraînent ces problèmes d'atteinte à la santé liée au travail.
Oui, c'est peut-être là-dessus qu'on peut insister tout de suite, Louis-Marie Barnier. Tout à l'heure, tu disais que c'était important de mettre en parallèle tout de suite les questions de santé au travail et de souffrance au travail avec l'interrogation de la responsabilité des entreprises.
Ouais, l'angle d'attaque en fait qu'on a choisi au niveau de la fondation, à partir du moment où on pense qu'effectivement qu'on fait le constat comme tout le monde, il y a un certain nombre de maladies professionnelles et d'accidents du travail qui perdurent, y compris, je pense qu'il y a une certaine accoutumance sociale au fait que c'est normal pour les ouvriers de mourir plutôt que les cadres, hein, puisque vous savoir que l'écart d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers s'est réduit fortement au cours des années après un siècle en fait de législation en matière de santé au travail, mais que par contre l'écart stagne en fait depuis une quinzaine d'années. Et donc il y a une espèce d'accoutumance au fait que finalement c'est normal que quand on est ouvrier, on meurt plus tôt. Alors, un des aspects quand même dans cette affaire-là, hein, c'est que les cadres aussi ont eu une espérance de vie qui n'augmente plus parce que, justement, il y a ces questions de souffrance au travail dont on parle beaucoup. Mais pour aborder ça, donc, qui est quand même un très vaste sujet où il y a beaucoup de gens qui interviennent et qui ont des propositions, il nous a semblé qu'il y a un aspect sur lequel on peut travailler qui est la question la responsabilité patronale. En gros, il y a deux idées hein, dans notre démarche. C'est d'abord l'idée que les accidents et les maladies professionnelles au travail ne sont pas une fatalité, mais ils relèvent de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'employeur choisit de sous-traiter une activité, il choisit de prendre tel produit qui est moins cher plutôt que tel autre, il choisit d'augmenter les rythmes et donc les salariés ont moins de possibilités de faire des choix qui seraient moins nocifs à leur santé. Il choisit aussi, par exemple, de réduire le poids des organisations syndicales, ce qui réduit la capacité de résistance des salariés, mais ça, c'est un autre sujet. Et deuxième idée dans la démarche de Copernic, c'est que ces choix nocifs sont faits par des responsables. S'ils font un choix, ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de prendre une autre solution. Et donc, les employeurs doivent être mis en face de leur choix de façon à ce qu'on puisse progresser et qu'on puisse les obliger, en fait, les obliger socialement à faire d'autres choix. Parce que, pour nous, notre analyse, c'est que ces choix sont faits en fonction de la rentabilité des entreprises. Et donc là, après, on va sur le nœud du problème, qui est quand même ce système en France où on a des employeurs parce qu'ils auraient l'emploi entre les mains, parce qu'ils créeraient des richesses, entre guillemets, alors qu'on sait très bien que ce sont les salariés qui les créent par leur travail. Donc ces employeurs, en fait, seraient un peu au-dessus des lois. Et donc, alors qu'il y a des mises en cause des responsabilités des employeurs dans tous ces accidents et ces maladies professionnelles, en fait, il n'y en a aucun que vous voyez en prison, alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts hein, depuis 100-150 ans, depuis la révolution industrielle.
Mais pour en rester encore un petit peu, peut-être avant de passer effectivement aux actions qui ont été menées et aux possibilités de combattre ces situations, Je voudrais qu'on revienne un petit peu encore sur la connaissance du phénomène, parce que vous dites tout de même que c'est un phénomène qui est mal connu, mal recensé par la statistique. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Parce que c'est vrai que bon, dénoncer un phénomène, c'est important. On va y revenir hein, tout à l'heure. Mais pour le dénoncer, encore faut-il le connaître, faut-il l'appréhender, faut-il en comprendre les causes? Est-ce que là-dessus, on a suffisamment d'éléments?
Alors moi, je voulais justement intervenir sur cette question de la connaissance. Je vais faire un peu de publicité pour un ouvrage qui va sortir aux éditions La Découverte à la fin du mois de novembre, qui s'appelle « Santé au travail, approche critique », et qui est justement pour montrer que on sait beaucoup de choses. Et les employeurs savent. Et je vais prendre là l'exemple de l'amiante parce qu'il est le plus emblématique. Les industriels de l'amiante savent depuis le début du XXe siècle que l'amiante donne le cancer, donne toute une série de maladies. En toute connaissance de cause, ils ont organisé le marché. Et dans les années 70, quand les premières données ont quand même fini par arriver dans l'espace public, ils se sont organisés délibérément pour empêcher la connaissance des effets sanitaires de l'amiante. On est dans la même situation pour une grande partie des cancérogènes. Et pour travailler avec des collectifs ouvriers qui se battent sur des questions de cancer dans des entreprises, je vais citer une entreprise de la chimie à Montluçon qui fabrique de la vitamine A, pour en complément de l'alimentation animale. Une vitamine de synthèse. Au début des années 80, les industriels ont introduit une molécule qui très rapidement s'est avérée être un mutagène et probablement un cancérogène, mais l'industriel a bloqué les recherches pour connaître la cancérogénicité. On est aujourd'hui à pratiquement 40 cancers du rein dans cette entreprise, chez les actifs et chez les sous-traitants. Et face à ça, on a une situation où les pouvoirs publics ont fait faire des études épidémiologiques qui sont en fait une manière de maintenir le doute sur la toxicité de cette molécule. Et on est dans une situation pratiquement d'expérimentation humaine.
Alors peut-être on peut tout de suite attaquer un des cœurs du problème que vous évoquez là avec quelque chose qui joue beaucoup dans l'évolution des questions de santé et de souffrance au travail sur ces dernières années avec le développement de la sous-traitance et de l'intérim. Vous insistez bien dans la note sur le fait que effectivement ça pose plusieurs soucis, ça pose des soucis en termes de repérage, de déclaration de cette souffrance-là, des maladies, et puis en termes d'encadrement juridique aussi et encore plus évidemment de recherche de responsabilité.
Alors la sous-traitance, c'est une manière de transformer le contrat de travail en une relation client-fournisseur entre une entreprise. Alors le contrat n'est plus entre un employeur et un salarié, mais entre deux types d'entreprises. Les donneurs d'ordre qui vont déterminer ce qu'ils veulent, qui font un appel d'offres et qui mettent en concurrence des entreprises sous-traitantes. Et en fait, ça introduit une rupture complète entre celui qui prescrit le travail, qui est le donneur d'ordre, et ceux qui l'exécutent. Et je vais prendre l'exemple de la sous-traitance de maintenance sur les sites industriels, que ce soit dans le nucléaire, que ce soit dans la pétrochimie, que ce soit sur les chantiers navals. On a désormais les travailleurs qui exécutent véritablement le travail sont des travailleurs sous-traitants qui n'ont pas de lien contractuel avec le donneur d'ordre. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à la santé? C'est que du coup, il y a un transfert des risques vers ces travailleurs sans qu'ils aient les garanties du contrat de travail et sans qu'ils aient les marges de manœuvre que donnent des institutions représentatives, un syndicat, la possibilité de se défendre, d'utiliser un droit qui est très très important pour la santé, qui est ce qu'on appelle le droit de retrait des situations dangereuses. Donc on est là dans une remise en cause, en fait, des droits par le biais d'un contrat commercial.
Louis-Marie, justement, là, on voyait bien en quoi la présence syndicale dans les grandes entreprises hein, et l'absence souvent de syndicats dans les entreprises sous-traitantes pose une question. On voyait tout à l'heure l'idée que les syndicales, et en règle générale, je dirais, on est plutôt dans une logique réparatrice que dans une logique anticipatrice sur la question de souffrance et maladie au travail. Est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
D'abord, je pense qu'effectivement, il y a la question du rapport de force sur le lieu de travail qui est une question centrale et que la sous-traitance fragilise complètement les collectifs de travail. C'est-à-dire que quand vous avez deux personnes ou deux groupes, d'ailleurs de salariés, qui travaillent côte à côte, qui ne dépendent pas du même employeur et pour lesquels la mise en cause en fait, des mêmes choix conduisent à des effets différents sur les salariés. Et donc, du coup, les salariés ont du mal à se battre ensemble, voire même ils sont opposés hein, par des stratégies patronales. Donc, on voit bien déjà qu'il y a un premier problème, c'est la capacité de se défendre sur le lieu de travail. Et il me semble que là-dessus, il y a une question qui est très importante pour nous, c'est justement de s'opposer à cette dilution de la responsabilité patronale et d'arriver à ce qu'il y ait vraiment pas seulement un collectif de salariés, mais aussi qu'en face, on ait aussi un collectif d'employeurs qui soit responsabilisé et qu'on puisse s'opposer en fait à cette dilution, à cette absence de transparence de qui est responsable vraiment. Et moi, par exemple, pour parler sur les aéroports, le lieu que je connais bien, on a donc des sous-traitances en cascade, ce qui est encore un autre phénomène qui amplifie, c'est-à-dire que vous avez un marché qui est confié à une entreprise, l'entreprise a le droit de prendre une autre entreprise pour faire le travail, laquelle autre entreprise prend quelquefois même un intérimaire, donc là on a encore une autre dilution, puisqu'on a à la fois l'entreprise employeuse qui est responsable de la santé, mais l'intérimaire, lui, il dépend aussi de son propre employeur, c'est-à-dire l'agence d'intérim. Et donc, on voit bien que dans ce cas-là, on ne sait plus très bien à qui s'adresser pour pouvoir faire des propositions alternatives et cibler déjà la responsabilité et dire que ça doit être organisé autrement.
Merci. On va tout de suite faire une petite pause musicale avant de reprendre la discussion. On va écouter Qual, Tous les jours, toutes les nuits, de l'album Là où j'habite. C'était quoi là où j'habite tous les jours, toutes les nuits. On va reprendre tout de suite sur la question de l'appréhension des souffrances, des problèmes, des accidents liés au travail et des maladies. Vous soulignez aussi à plusieurs reprises, et vous avez étudié ça, Annie Thébaumoni, il me semble, qu'il y a des populations non seulement plus précarisées, qui sont notamment liées à l'intérim, à la sous-traitance, mais aussi des populations qui sont plus méconnues ou plus difficiles à étudier ou pour lesquelles il est plus difficile d'appréhender ces questions-là. Notamment, alors c'est dans l'ouvrage, hein, vous insistez sur la situation des femmes, sur la situation des sans-papiers, et puis peut-être on pourra élargir aussi au fait que il y a des populations dont on parle moins en France, mais c'est des situations qui sont aussi très importantes et très difficiles à l'international à cause de cette question de la sous-traitance, notamment via les délocalisations.
Alors, pour la France, les immigrés... Les travailleurs issus de l'immigration ont toujours été dans les secteurs dans lesquels on sous-traitait les risques ou la gestion du travail était les empêchait de s'organiser, les empêchait d'avoir des possibilités d'organisation collective qui leur permettent de se défendre face à des formes d'exploitation assez terribles. Mais ce qu'on connaît moins peut-être, c'est les femmes. Et moi, je voudrais évoquer deux groupes de femmes. D'une part, celles qui travaillent dans la grande distribution, notamment les caissières de supermarché, qui sont dans des conditions de travail absolument extrêmement difficiles, avec des problèmes de santé qui ne sont pas pris en compte, et une très très grande précarité, avec du travail à temps partiel et à durée déterminée. Et puis, dans tout ce qui est la santé, et notamment les aides-soignantes, les agents hospitaliers, et même les infirmières intérimaires, en fait, il y a là tout un problème de visibilité des atteintes liées au travail chez ces dans ces groupes de population qui ont en plus de la difficulté à s'organiser compte tenu des conditions aussi d'emploi qui leur sont faites. Oui. Alors au niveau international, c'est sûr que on est dans une situation qu'on peut qualifier encore de pire. Je prendrai simplement de nouveau l'amiante pour dire que si on a interdit l'amiante en Europe, l'amiante est en train de la consommation d'amiante entre guillemets est en train de flamber en Chine et en Inde dans des conditions de travail absolument abominables qui reproduisent les conditions non pas des années 60 mais probablement du début du siècle en Europe, c'est-à-dire sans aucune protection. Et un des acteurs de ce maintien de l'amiante dans le monde, c'est le Canada, qui a encore des mines et qui exploite des mines pour l'exportation.
Et tu cites, je crois aussi, et tu as beaucoup travaillé sur la question du nucléaire, et en particulier, je crois, sans me tromper, en disant que tu as travaillé sur le Brésil, où les choses, là aussi, sont dans des conditions tout à fait déplorables. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors, sur le nucléaire, j'ai travaillé essentiellement en France sur le fait que toute la maintenance du nucléaire est sous-traitée. On s'aperçoit d'ailleurs que quand maintenant les informations commencent à venir du Japon avec Fukushima, la sous-traitance de la maintenance du nucléaire est un phénomène général parce qu'autrement ils ne savent pas comment gérer l'importance de l'exposition au rayonnement ionisant. Dans les pays où le nucléaire est implanté, alors par exemple en Inde, Areva a des projets d'implantation qui sont absolument monstrueux quand on connaît les lieux d'implantation et les conditions de travail dans un pays comme ça. Et au Brésil, il y a une centrale nucléaire. J'ose espérer qu'ils ne vont pas en construire d'autres. Mais la délocalisation des industries de l'amiante, la délocalisation de la chimie provoque de véritables épidémies de cancers qui ne sont absolument pas reconnus comme cancers professionnels et qui atteint une population très peu organisée, avec très peu de droits, qui pose complètement le problème d'une justice internationale par rapport à des industriels qui savent maintenant quels sont les risques et comment ils exposent les populations dans ces pays-là.
Oui, alors ça nous donne un état des lieux assez sombre et assez alarmant de la situation, peut-être pour essayer d'espérer un peu, tout en restant réaliste, on peut attaquer la question des luttes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour résister, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser. Il y a déjà des résistances qui sont en place depuis longtemps, des collectifs qui se sont organisés. Peut-être, Louis-Marie, tu peux nous dire quelques mots de cette résistance.
Moi, ce qui m'a vraiment frappé quand on a fait la note pour la Fondation Copernic, c'est en fait d'arriver à mettre en évidence que sur énormément de luttes, on n'est pas simplement dans le face-à-face entre des salariés et des syndicalistes face à leur employeur, mais qu'en fait, il y a une dimension sociale qui vient très très vite et qui s'exprime notamment à travers des mobilisations d'associations autour des lieux de travail. Je pense par exemple à une usine justement d'amiante encore, qui était dans le nord de Paris, où il y avait une école juste à côté, où finalement, c'est aussi toute la population de la ville qui s'est mobilisée mobilisés pour mettre en évidence les atteintes à la santé par rapport à cet amiante. Et il me semble que là-dessus, on a une vraie carte à jouer, qui est de désenclaver cette question de santé au travail, qui serait simplement à l'intérieur de l'entreprise, d'en faire une vraie question sociale et politique. Je crois qu'il y a un vrai investissement, en fait, maintenant, depuis un certain nombre d'années, du secteur, du mouvement syndical dans son ensemble, sur cette question du travail, sur cette question qui ressort beaucoup par le biais de la souffrance au travail. Mais il faut qu'on arrive à transformer ça en un vrai rapport de force qui intègre un peu tous les secteurs de la société. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la Fondation Copernic, qui n'est pas a priori dans le domaine du travail, en a fait un de ses enjeux depuis quelques années, parce qu'il y a bien une question sociale et pas simplement un problème de travail.
Mais on a vous abordé hein, dans votre note, sous le chapitre « Obtenir justice », vous essayez de poser la question finalement du mode de traitement vis-à-vis d'employeurs, et vous dites réparation ou punition, civile ou pénale. Est-ce qu'on peut là aussi avancer un petit peu sur cette question, parce que je sais qu'elle est largement débattue. On voit bien qu'on a selon que les accidents du travail sont traités au civil ou au pénal. Évidemment, on n'a pas les mêmes réponses, on n'a pas les mêmes. Les employeurs ne sont pas jugés de la même manière. Est-ce qu'il a, je pense, est-ce qu'on peut avoir un petit peu les termes du débat sur cette question ?
Alors oui, d'autant que là, il y a un parallèle très intéressant à faire entre la France et l'Italie. En France, je l'ai dit, c'est la réparation qui a été mise en avant, donc une indemnisation des victimes du travail, avec au mieux la condamnation en faute inexcusable de l'employeur, mais toujours sur le versant de la responsabilité civile. Alors que en Italie, ce qui n'est jamais arrivé en France, un procureur a mis en examen non pas simplement les directeurs de l'usine Eternit proche de Turin qui est située à Casale Monferrato, mais a décidé de mettre en examen les principaux responsables du drame de l'amiante dans le monde, qui sont Stéphane Schmidaini, responsable du groupe Eternit Suisse, et Louis Cartier de Marchienne, responsable du groupe Eternit Belgique, qui est le groupe auquel appartient d'ailleurs Eternit France. Et le procès se déroule actuellement. Le chef d'accusation, c'est non pas homicide ou atteinte à l'intégrité d'autrui, mais c'est désastre volontaire. C'est-à-dire que le procureur a considéré qu'il y avait une intentionnalité dans l'organisation d'un marché d'une fibre dont les dangers étaient connus, et l'ensemble du procès démontre, actuellement on en est à la fin du procès, donc on a accumulé tous les éléments qui montrent que non seulement ils savaient, ces industriels, mais ils ont organisé la désinformation pendant pratiquement un siècle. Alors, pas eux, évidemment, mais ils ont pris la suite des précédents. Mais en particulier dans la période où on commençait à voir émerger la catastrophe, les années 60, 70, 80, Stéphane Schmidaini et Louis Cartier de Marchienne étaient à la direction de ces deux groupes Eternit et ont organisé avec les autres industriels de l'amiante ce qui a donné le comité permanent amiante en France et d'autres structures de ce type pour empêcher la connaissance des effets sanitaires de l'amiante. Et donc le réquisitoire du procureur, c'est 20 ans de prison ferme pour chacun. On espère évidemment qu'ils vont être condamnés. Et je dirais que ce procès préfigure, de mon point de vue, une juridiction qui est à venir, et que là aussi on appelle de nos voeux dans les réseaux qui se sont constitués, les réseaux de résistance par rapport à cette situation, qui serait un tribunal pénal international du travail et de l'environnement. Et c'est le combat d'un certain nombre d'associations et de réseaux, dont l'association Henri Pézerat, Santé, Travail, Environnement, qui a pour objectif de soutenir les luttes, justement, telles que Jean-Marie en parlait, soutien à des luttes pour la reconnaissance de la responsabilité des industriels et des employeurs dans des drames comme celui du Mediator, comme celui du travail, dans de multiples situations, y compris le suicide à France Télécom.
Un tribunal international pénal du travail, voilà un projet intéressant. On va terminer là-dessus parce qu'on va devoir se quitter déjà, comme on dit. Sur la question des propositions, peut-être Louis-Marie, tu peux essayer de revenir rapidement si possible sur les propositions qui sont émises dans la note et plus largement qu'on peut faire sur ces questions.
Alors d'abord, juste un mot derrière en fait l'amiante, on a des dizaines de milliers de produits qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes et ou atteintes à la reproduction, dont les salariés se servent tous les jours en permanence et qui ont des effets sur la santé et qui sont très mal connus. Mais on voit bien que la façon dont l'amiante sera traité ouvrira la discussion d'une façon ou d'une autre sur l'ensemble de ces atteintes à la santé par ces produits. Donc notamment le fait que les directions et les gouvernements d'ailleurs fassent traîner la question de l'amiante est aussi une façon pour eux de repousser le plus loin possible le moment où on pourra vraiment s'occuper de tous ces produits et de traiter la responsabilité patronale. Alors, il y a en fait des propositions dans le domaine des produits eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent être retirés du marché dès qu'ils sont nocifs. Il faut qu'il y ait des instances indépendantes pour traiter des taux d'exposition, parce que pour l'instant, il y a une discussion européenne en fait sur ces taux, mais les lobbies, notamment des entreprises chimiques, interviennent pour les réduire, qu'ils soient le plus haut possible. Et puis, il y a un autre élément en matière d'organisation du travail, par exemple sur la sous-traitance. Les sous-traitances en cascade doivent être interdites, par exemple sur un site. Pour nous, il ne peut y avoir qu'un organisateur, c'est celui qui est responsable du site, ou bien il faut aussi évidemment augmenter les moyens de l'État en matière de contrôle du droit du travail, donc l'inspection du travail, mais aussi augmenter les droits des CHSCT, des élus syndicaux dans les CHSCT, augmenter les capacités de résistance globalement en fait des salariés, parce que quelque part c'est le salarié qui peut à un moment donné se retirer d'une situation dangereuse, voilà, et faire que donc sa santé soit préservée.
Merci. On va terminer là-dessus. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir répondu à notre invitation. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver notre dernière invitée par téléphone. C'est Sophie Bruno qui nous parlera de son documentaire « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». On écoute donc « Jamais, il y en a qui ». C'était donc Jamais, il y en a qui. Et ça, je ne sais pas ce que c'était. Mais on continue. Donc pour cette dernière partie d'émission, on a le plaisir de retrouver ce soir Sophie Bruno au téléphone. Sophie Bruno est réalisatrice, co-auteur avec Marc-Antoine Roudil du film documentaire « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » dont on va parler ce soir, qui a été réalisé en 2005 et produit par Alter Ego Film et ADR Productions. Donc Sophie Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, désolé pour vous et pour les auditeurs, je vous dis tout de suite qu'on a eu un problème technique, ce sont les aléas du direct, et donc on ne va pas pouvoir passer les extraits du film qu'on avait prévu de passer. Donc c'est une incitation supplémentaire pour les auditeurs à aller voir le film, à se le procurer en DVD. Ils peuvent aussi aller voir d'ailleurs la bande-annonce qui est sur YouTube ou Dailymotion, qui donne déjà une bonne idée de ce qu'est le film. Donc merci d'avoir accepté, Sophie Bruno, on est content de pouvoir échanger avec vous parce que c'est un film qui est très réussi, qui est très très impressionnant, qui est assez touchant et qui a d'ailleurs rencontré un vrai succès public, qui a eu de très bonnes critiques dans la presse. Et puis, c'est un film qui nous intéressait par rapport à notre question de ce soir, parce qu'il permet de concrétiser l'aspect des questions de santé et de souffrance au travail, de donner un visage, de donner de la chair un peu à cette question-là, et puis aussi de la relier à des phénomènes sociaux, économiques plus globaux. Alors peut-être pour commencer, tout simplement, on peut vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème, d'où est-ce que c'est né, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette question-là ?
Je crois qu'il y a un élément déclencheur qui est le livre de Christophe Dejour qui s'appelle Souffrance en France, qui a pour sous-titre la banalisation du mal. Non, banalisation du mal, la banalisation de l'injustice sociale, ah oui. Qui reprend en fait la banalité du mal d'Anna Arendt. Et dans lequel en fait il développe l'idée que la peur s'inscrit dans les rapports de travail et que la menace à la précarisation, c'est-à-dire l'utilisation managériale de la peur et de la menace au licenciement, est devenu un outil principal dans le monde du travail. Et donc voilà, c'est un peu l'idée effectivement de cette banalisation du mal et de se dire comment on peut en parler et quel est le meilleur endroit. Du coup, en cherchant et en continuant les lectures, on est tombé rapidement sur ces consultations qui étaient très peu nombreuses en fait. Il y en avait 4-5 en France, dont 3 en banlieue parisienne, qui avaient cette dénomination de souffrance et travail. Et à partir desquels ben, on pouvait réfléchir cette question du travail qui n'est pas simple et poser une série de questionnements qui concernaient l'ensemble de ce hors-champ, je dirais, qui était le monde du travail.
Oui, parce qu'il faut que tu nous expliques peut-être un petit peu le thème du film, hein, puisque tu as fait, je crois, un huis clos. Hein, c'est un peu comme ça que tu présentes ce travail. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est réalisé ce film ?
Effectivement, c'est un huis clos à travers 3 consultations tenues par 2 médecins inspecteurs du travail et une autre par une psychologue qui est sur Nanterre. C'est un huis clos qui a cette force de parler d'un hors-champ qui n'est pas filmable de façon frontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu où on pourra aller filmer le monde du travail. Hein. Pour un cinéaste documentariste, c'est toujours compliqué de rentrer en entreprise. Hein. Dès le début du cinéma, en fait, déjà, les lumières, alors que c'était leur usine qu'ils filmaient, hein, c'était la sortie des usines. Et donc, toute l'histoire du cinéma documentaire, et de manière générale, bon, même si la fiction, justement, a cette capacité de reconstituer, mais dans le documentaire, on pénètre pas impunément dans les lieux du travail. Donc, on savait par ailleurs que cette souffrance subjective du travail, elle était invisible sur les lieux mêmes. Du coup, il fallait trouver un endroit où elle pouvait se voir, se dire, se comprendre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à aller dans ces consultations, en fait. Et je dirais que l'un des principes du film, c'était de mettre en évidence ce lien entre les souffrances individuelles et les nouvelles formes d'organisation de travail. Du coup, chez tous ceux qu'on a pu filmer, on a filmé grosso modo une 40aine de cas sur ces 3 consultations en quelques mois. Sont tous des gens très différents. On a une ouvrière en chaîne de montage qui est une des premières situations du film. Il y a aussi un cadre en assurance. Il y a une aide-soignante. Il y a une employée. Et ils semblent parler tous d'une même voix. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas. Ce sont des situations qui sont passées à différents moments, évidemment, durant ces mois de tournage. Et en même temps, ils se parlent sans se voir, en fait. Oui. Du fait que ce que travaille le film, c'est plus les récurrences que les différences, en fait.
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est bien montré dans le film. Donc, il y a un vrai huis clos qui donne une espèce d'intensité dramatique et qui permet en même temps de mettre en valeur de manière extrêmement efficace cette parole directe des salariés. Et effectivement, on sent qu'il y a une résonance entre les discours. Il y a un parallélisme que vous avez voulu mettre en place. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas passer les extraits, encore une fois, essayer d'aller voir le film, mais effectivement, il y a le discours d'une ouvrière, par exemple, qui va expliquer comment elle a intériorisé, incorporé, c'est-à-dire dans son corps même, dans sa manière de parler, dans sa manière de vivre, le rythme de la chaîne de travail, le rythme du travail. Et donc, effectivement, le lien est fait assez facilement avec la transformation de l'organisation du travail. Et effectivement, vous venez de le dire, on a... Il y a une autre intervention qui peut paraître assez différente et qui finalement résonne tout à fait avec cette ouvrière-là, avec le discours de cette ouvrière-là, c'est celle du cadre qui lui aussi va être tellement pressurisé par les transformations de l'organisation du travail et puis l'augmentation des rythmes qu'il va craquer. Donc c'est quelque chose que vous avez voulu mettre, mettre en scène, cette résonance-là.
Bah, c'est-à-dire, on a affaire en fait à un espèce de productivisme, quoi. D'un côté, l'intensification du travail à la chaîne de montage avec une compression personnelle et puis un rythme de plus en plus rapide, hein, et de l'autre des systèmes d'évaluation en fait. Tout ça bah, dans des pratiques néolibérales qui se sont généralisées. Mais chez tous aussi on voit qu'il y a des répercussions sur la vie privée.
Oui.
On voit qu'il y a des pétages de plomb, on voit que quand ça va mal au travail, il y a une telle centralité du travail dans nos vies qu'on ramène ça chez soi et que ça a beau... Il y a beau avoir un équilibre familial, ben, il se dégrade et se détériore très vite. Hein. Et que ben, chez tous, on voit aussi cette peur de la menace de licenciement, l'humiliation, le consentement des collègues aussi face à l'injustice qui fait beaucoup de dégâts, hein, l'absence d'écoute, l'éviction des anciens aussi, dont De Jour d'ailleurs parle très bien, hein, cette perte de mémoire de l'entreprise avec l'éviction des anciens et que du coup, il n'y a pas de transmission des droits sociaux, qu'il n'y a pas de transmission... du tout des règles d'éthique professionnelle, des pratiques de métier et que du coup ben, effectivement des gens arrivent, font scrupules et font ce qu'on appelle le sale boulot mais du coup voilà on ressent chez tous cette notion qui est très importante de périodisation, c'est-à-dire qu'ils ont tous connu le bonheur au travail, si je puis dire. Ils ont aimé leur métier, ils le faisaient bien, ça se voit, ça s'entend. Et à un moment donné, ça bascule suite à une restructuration, des nouvelles mesures qui arrivent.
Des nouvelles techniques de management.
D'évaluation dont on parlait, d'intensification et de course au profit, en fait, à travers des nouveaux modes de management.
Alors, Louis-Marie Barandi a une question.
Oui.
Oui, bonjour. voilà, donc ce film, il date de quelques années.
Oui.
Est-ce que vous pensez que l'approche, en fait, de cette question a évolué? Ou, autrement dit, est-ce que vous feriez, vous traiteriez cette question de la même façon aujourd'hui? Ou comment vous voyez ces évolutions aujourd'hui?
Oui, j'ai toujours difficile à répondre à ce type de questions parce que je ne suis pas devenue spécialiste de travail du fait d'avoir fait un film. Du coup, moi, je reste un peu dans ma position de cinéaste qui a effectivement traversé une expérience. C'est-à-dire que bah, il y a eu des repérages sur 2 ans hein, dans les consultations où j'avais l'impression de faire l'expérience de la guerre économique comme ça et de retrouver énormément de choses que j'avais pu lire par ailleurs. Mais et puis ben, il y a eu le tournage qui s'est étalé sur plusieurs mois. Puis après, effectivement, on a accompagné beaucoup le film. Il est sorti en salle sur une dizaine de copies. Et il circule encore aujourd'hui, en fait. On l'avait conçu comme un film-outil, ça l'est devenu. Et donc, dans ce sens-là, ben, on est très content. J'ai l'impression que s'il circule toujours aussi bien, et si les gens s'en emparent pour ensuite ben, voilà, réfléchir ensemble sur ce qui arrive dans le vivre ensemble, dans le monde du travail, c'est que quelque part, il est toujours d'actualité, si vous voulez. Après, moi, j'ai dû. Enfin, c'est clair que j'ai fait une radio sur le suicide au travail qui date d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Hein, et c'était quelque chose qui ça commençait pas, mais ça démarrait en termes de réflexion à ce moment-là déjà. Et certains patients n'arrivaient pas en consultation parce qu'ils avaient pu se donner la mort. Hein. Bizarrement, elles étaient surchargées et il y avait pas mal d'absentéisme. Mais du coup, voilà, je dis, il y a une dégradation dans le monde du travail qui continue. Après, je trouve qu'en France, il y a aussi un débat public qui s'est ouvert. Du coup, nous, c'était un peu notre ambition, en fait, c'était de participer modestement au débat public et à la question du travail et
Oui, bah c'est assez réussi. Alors, Annie Thébaumoni a une question aussi pour vous.
Oui. En fait, c'est bravo pour le film, tout d'abord. Merci. Mais c'est un commentaire, c'est par rapport à ce qui s'est passé depuis. C'est en fait, d'une part, la reconnaissance en faute inexcusable de Renault dans le cas d'un suicide au technocentre. Et je crois que c'est important de montrer qu'il y a eu des formes de résistance qui se sont développées, des formes de résistance collective, parce que cette faute inexcusable ne serait pas n'aurait pas été possible autrement. Et puis le fait que un inspecteur du travail a mis un procès-verbal pour mise en danger de la vie d'autrui pour ces formes d'organisation du travail pathogène, ce qui montre qu'effectivement le débat évolue et évolue dans le sens d'une responsabilisation des employeurs.
Oui, alors j'aurais juste ajouté là-dessus pour vous faire intervenir une dernière fois parce que l'émission touche à sa fin. Effectivement, il y a eu cette évolution et vous soulignez, Annie Thébaumoni, l'importance de l'organisation collective, de la réponse collective. Et c'est quelque chose qui est montré aussi dans le film. C'est-à-dire, quand vous nous dites que vous vouliez faire un outil politique, effectivement, ça l'est déjà par les discours, la mise en valeur des discours des salariés. Mais à la fin du film, il y a une dernière séquence que vous avez intitulée Viatique, et qui est une séquence où on retrouve en table ronde les trois soignants et Christophe Dejour. Et là, c'est une séance qui donne des clés de compréhension et qui va aussi vers des propositions.
Oui, si vous voulez, il y avait cette idée que je crois qu'on est mais aussi politique en passant par les faits et en révélant du sens caché. Hein, évidemment, je dis que tout film est un choix successif de sélection, en fait, de sélection de l'endroit, sélection ensuite des situations, puis sélection en montage, parce que ces situations duraient longtemps et au final, il n'en reste 15-20 minutes. Et puis, il y avait cette idée, à la fin du montage, qui est survenue, de se dire qu'on ne pouvait pas se suffire des situations d'entretien, d'interaction entre patients et praticiens, et qu'il fallait des clés complémentaires de compréhension et aussi des clés de sortie, en fait. C'est-à-dire que je parlais de sémiotique tout à l'heure et que on ne pouvait pas rester sur une idée de fatalité. Bah oui, c'est comme ça, c'est devenu comme ça. Donc, c'était comment l'idée de transformation, de changement, de se dire qu'est-ce qui a fait que on en arrive là, quoi, et que du coup, ça n'a pas toujours existé, ça n'existera pas toujours. Hein. Et de ressortir, effectivement, avec assez de connaissances, aussi bien par l'expérience. C'est-à-dire que le film, c'est quand même à le parti pris de longueur de plan, ce qui fait que à un moment donné, il y a un parti pris de document, si vous voulez, c'est que on ressent ce que les gens vivent et on voit à travers leur expression du visage, la manière dont ils parlent, ce qu'ils ramènent du travail à travers leurs paroles et la façon dont ils parlent et ils racontent. Je dis, on peut pas le nier, quoi, c'est là. Et du coup, il y a cette expérience subjective par la parole de l'autre, hein, et ensuite, il y a cette espèce de réponse qui est quasi comme déjà un effet de résistance de ces praticiens qui réfléchissent en acte, qui créent un petit réseau, qui essayent de penser ensemble par rapport à ce qui se passe et qui est toujours compliqué en termes d'analyse, et qui apportent des arguments et qui essayent d'ouvrir des portes de sortie, en fait, et donc qui mettent en évidence des points essentiels. Je pense notamment à quelque chose qui fait beaucoup de dégâts. Il y avait un petit livre de Dejour là-dessus qui s'appelle l'évaluation des preuves du réel, et notamment tous ces systèmes d'évaluation individualisée des performances.
Et on va pas trop pouvoir aller plus loin, mais j'invite les auditeurs à aller voir le film pour écouter cet échange de la fin du film qui est très très intéressant aussi, qui est très pertinent et couvre plusieurs pistes de réflexion, effectivement. Et puis, il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je rappelle le titre du film, c'est « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce film ? On peut l'acheter en DVD ?
En DVD. Hein, il est édité par Carlotta. Et du coup, il se trouve très facilement en DVD. Ensuite, il circule de temps en temps ponctuellement dans une salle.
Oui, effectivement. Je vous remercie.
C'est surtout sur le port DVD,
oui. Ok, merci à vous et puis merci à nos deux invités de ce soir d'avoir bien voulu participer. Bon merci fait. À la régie. Vous retrouverez l'émission de mode d'emploi réalisée par la Fondation Copernic le vendredi 28 octobre pour la prochaine émission sur les SCOP, et vous pourrez télécharger cette émission sur notre site fondation-copernic.org.